RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les portables, les amis, s'il vous plaît. Allez, Kaouter Ben Mohamed, Bruno Poncet.
On les a planqués, mais il n'y a pas moyen.
Non, on redonne les portables. Allez,
heureusement qu'il
ça vous fait du bien. Ça vous fait une petite cure, un petit sevrage. C'est toujours pas mal, ça. Allez, merci, monsieur Mourad Boudjelal. Bruno Poncet et Kaouter Ben Mohamed sont avec nous et avec vous, comme tous les jours, sur RMC et RMC Story. Vous êtes là en direct au 32-16 pour faire vivre les GG. Si vous avez raté les grandes gueules, vous savez que vous avez les podcasts à votre disposition pour rattraper toutes les émissions de la semaine, rattraper l'émission du jour. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. On vous a proposé tout à l'heure pour 11h aussi deux sujets de discussion. Vladimir Poutine, alors là c'est vraiment le retour de l'Union soviétique. Aujourd'hui qui va faire une grande cérémonie d'annexion des quatre régions ukrainiennes. Il va sûrement encore monter le ton, escalader vis-à-vis de l'Occident. Autre sujet de discussion aussi, ce mouvement qu'on a vu poindre cet été, qui est parti de pays scandinaves, les dégonfleurs de pneus SUV. Alors, est-ce que les écologistes vont trop loin? Voilà. De quel sujet voulez-vous que nous parlions ensemble au 32-16? Vous votez sur rmc.fr, vous en parlez tout à l'heure avec nous à 11h. En attendant, on va s'intéresser à ce qui se passe à Marseille, dans les quartiers nord, et vous allez voir que ça ne concerne pas que la cité phocéenne.
RMC, les grandes gueules.
Oui, ce qui se passe dans les quartiers nord avec le docteur Wichou qui sera avec nous dans un instant au téléphone, qui ferme son cabinet parce qu'il n'en peut plus des agressions.
Oui, le docteur Wichou est un médecin comme malheureusement il n'y en a plus beaucoup, un médecin de quartier qui connaît bien ses patients mais qui n'en peut plus. Il était dans le 15e arrondissement parce que il a subi une énième agression il y a quelques jours. Il y a quelqu'un qui a tambouriné à sa porte, qui voulait tout de suite une ordonnance, qui ne voulait pas attendre, qui ne voulait pas, voilà, il y avait du monde. Il s'est mis à crier, il avait un copain dehors qui aussi est rentré, a voulu frapper le médecin, mais le docteur Wichou nous racontera précisément ce qui s'est passé. Mais ça montre bien que non seulement on a un problème de recrutement, on a un problème aussi de répartition des médecins sur le territoire, et puis on a des médecins qui sont là mais qui sont agressés et qui n'en peuvent plus parce qu'il y a un comportement de la population, pas de tout le monde, mais quand même une partie de la population de plus en plus agressive qui ne supporte pas l'autorité que peut représenter un médecin.
Docteur Wichou, bonjour.
Bonjour,
merci. Docteur.
Merci d'être avec nous, docteur.
Bonjour à toute l'équipe.
Racontez-nous précisément ce qui s'est passé ce jour-là, alors, docteur.
Vous avez bien résumé l'incident. Donc, des patients qui ne souhaitent pas attendre, qui veulent être reçus immédiatement. Donc, bien que la salle d'attente soit pleine, qu'il y ait des gens qui attendent depuis une heure, deux heures leur tour. Et donc,
et c'est
voilà,
pas justifié c'est... par une urgence particulière, quoi.
Alors oui, bien entendu, il n'y avait aucune urgence. Bien entendu, une urgence, on sait, on se comporte, on est comme médecin avant tout. Et donc voilà, le problème, c'est que c'est pas la première fois. J'ai eu plusieurs incidents où j'étais agressé physiquement, on m'a cassé des vitres, on a tenté de mettre le feu à mon cabinet. Enfin bref, et j'en passe. J'ai porté des plaintes. Bon, la police scientifique était intervenue. Donc c'est des situations qui ont été.
Mais qui fait ça
Écoutez, je ne sais pas. Le feu, je ne sais pas. À chaque fois, j'ai porté plainte. À chaque fois, il y a eu. Ça a été classé sans suite. Et malheureusement, on n'arrive pas à se faire entendre, à se faire respecter. Et voilà. Alors évidemment, la police, faut le signaler aussi. La police n'a pas les moyens nécessaire pour remplir sa mission. Quand vous appelez la police, ils sont déjà sur d'autres choses, des situations beaucoup plus graves, beaucoup plus urgentes. Donc, il y a aussi un manque de moyens.
Mais ça fait longtemps que vous êtes dans ces quartiers nord.
Ça fait 15 ans.
Ça fait 15 ans. Et ça s'est dégradé ?
Alors oui, c'est ce que je dis toujours. Au début, c'était bien. Les dix premières années, c'est super. Ensuite, depuis 5 ans, on va dire, depuis vraiment 4-5 ans, ça commence à s'installer, les incivilités, les petites agressions, enfin le mécontentement. On connaît, nous, les médecins, le mécontentement des patients. La situation du système de santé s'est énormément dégradée, tout le monde le sait. Donc on est là à affronter le mécontentement des patients qui veulent la légitimité de se faire soigner, mais on n'arrive pas à répondre à la demande. Donc ça, c'est un problème qui est national, mais qui est en plus exacerbé, si vous voulez, dans des situations, dans des quartiers où, j'ai envie de dire...
Mais pourquoi celle-là, c'est celle de trop, docteur? Pourquoi vous raccrochez, du coup?
Bah, Écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné aussi, c'est mon coup de gueule. Et moi, je pense, j'ai une solution de pouvoir partir. Mais moi, je pense à toute la population, aux commerçants qui sont là, qui subissent la violence,
et
qui n'ont pas la possibilité justement de partir. C'est à eux que je pense le plus. Et c'est pour ça.
Là, vous allez rejoindre un autre quartier. Vous allez rejoindre une structure collective, c'est ça?
Oui. Je déménage à peu près à 4 km de là, dans une structure collective où il y a du monde. Donc, on sont plusieurs soignants.
Ça vous rassure d'être avec d'autres collègues?
Oui. Voilà. Oui, c'est rassurant parce que d'une part, il y a une problématique liée à certains quartiers. Donc, c'est pour ça qu'on se demande à quel moment quelqu'un va agir justement pour mettre fin à tout ça. Et c'est autour de mon cabinet, donc le métro Capitaine Gève, c'est devenu un lieu de l'endroit.
Mais est-ce qu'on
subit cette violence.
Un lieu de non-droit, ça veut dire quoi en fait?
Vous savez, quand vous n'avez rien à perdre, vous craignez personne et que vous agissez dans une impunité, ça laisse libre action à tout ce que vous pouvez imaginer.
Mais est-ce que c'était la mafia nigériane dont on parlait il y a quelques semaines? La mafia nigériane dont on parlait qui sévissait à Calisté. Bonjour docteur, vous allez dans quel quartier? Votre nouveau cabinet, c'est
Marseillaise,
donc je connais bien ces quartiers, j'y œuvre aussi.
Non, mais là je vais à la Viste.
À la Viste, oui, c'est un peu plus haut. Donc en fait, tout le secteur de Bougainville, du boulevard Odo, etc., la population va se retrouver sans médecin concrètement, parce que vous étiez le dernier, si j'ai bien compris.
Il y en reste encore deux, mais je pense, je n'ai pas l'intention d'abandonner mes patients. J'insiste que la majorité de mes patients sont des gens corrects, se comportent bien, j'aime bien ma patientèle, et c'est un choix que j'ai fait de m'installer dans ces quartiers. Mais j'ai essayé de trouver une solution intermédiaire, au lieu de partir très loin, c'est d'être à quelques kilomètres de ce secteur, dans un endroit un peu plus à l'écart, on va dire, qui est un peu plus sécurisé que là où je suis actuellement, où je travaille tout seul. Et quand vous avez un médecin qui est seul dans un local, les gens se permettent peut-être plus d'incivilité que si on est dans une structure où il y a du monde.
Docteur.
Avec une vidéosurveillance, etc. Voilà.
Docteur, je voulais vous demander, vos agresseurs, vous les connaissiez?
Ah non.
Est-ce que c'était des gens qui avaient une addiction médicamenteuse, par exemple, ou est-ce que c'est de l'agression?
Pourquoi vous voulez une ordonnance au suite?
Ah ben, il y a des gens qui ont une addiction médicamenteuse ou psychotrope. Il y a ceux qui ont
Est-ce qu'ils cas de figure, ou est-ce que c'est vraiment de l'agression de petites frappes?
Non, mais là, le dernier cas, c'était juste quelqu'un qui était pressé.
Ah oui, d'accord, c'est juste pressé, quoi.
Immédiatement.
C'est pas quelqu'un qui en manque.
Tout le monde
dans le quartier sait que je ne prescris pas de psychotropes. Et par contre, j'ai eu des problèmes, par exemple, poser des arrêts de travail. C'est des choses aussi. Il y a des gens qui sont addicts à l'arrêt
aux arrêts de travail.
C'est un autre problème aussi.
Depuis le 16 septembre, j'ai renoué malheureusement avec les médecins de manière quotidienne pour mes soins et pour ma préparation à une intervention que je vais subir bientôt. Et je suis tous les jours, parce que c'est pas une violence qui concerne que les médecins, c'est tout le corps médical. La dernière fois, j'étais au laboratoire à jeun le matin, c'est 7h moins le quart. Il y a un gars qui rentre et qui voulait presque taper la nana parce qu'il voulait faire des analyses alors qu'il n'avait pas d'ordonnance. C'est merveilleux quand même, tu vois. Donc elle lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas faire. Oui, je t'amène l'ordonnance demain. Et donc pour le calmer, elle a réussi avec beaucoup de psychologie. Je lui rends hommage. Elle s'appelle Sana, cette jeune laborantine. Elle a lui donné un petit tube pour qu'il fasse pipi. Elle lui dit va faire pipi. Voilà, je peux faire que ça. La pharmacie, c'est pareil. Hier, je suis partie faire des radios et des échos. J'ai dit aux quatre secrétaires médicales que si j'étais à leur place, j'aurais frappé 12 personnes en une heure, en fait, parce que j'ai passé du temps dans.
Les gens parlent mal.
Ils sont hyper agressifs, ils sont hyper violents, et de manière générale, au-delà des agressions de médecins dans des cabinets isolés comme le vôtre. Et ce qui est paradoxal, docteur, moi qui connais bien Marseille, c'est que le boulevard Odo est pas très loin du centre-ville, et qu'en fait, en montant à la Viste, vous vous enfoncez dans les quartiers nord, et c'est quand même un endroit où vous êtes un peu plus sécurisé. Donc c'est pas le problème que des quartiers nord, c'est
le sentiment d'impunité, il est contagieux. Je veux dire, même ceux qui au départ n'étaient pas agressifs se disent, puisque finalement on n'écoute que ceux qui sont agressifs, je vais être agressif moi-même.
Non, c'est même pas ça, c'est que les gens, je crois que ça ne rendent même pas compte. Ils sont hyper violents et c'est un comportement normal pour eux. Ils
veulent tout, tout faire. Ce qui est normal, on est dans un pays où on doit respecter la police parce qu'elle protège et les médecins parce qu'ils soignent.
Mais c'est une base.
C'est quand même dingue d'être obligé de changer de quartier pour fuir cette agression.
Docteur, c'est un problème de police aussi aujourd'hui.
Je vais juste apporter une précision. C'est une démission, allez-y. Tous les quartiers nord ne sont pas des endroits.
Exactement.
Donc, je m'enfonce peut-être dans les quartiers nord, mais c'est un quartier qui est beaucoup plus calme. C'est il y a vraiment des îlots d'insécurité, des territoires bien définis d'insécurité. Attention. Et c'est là peut-être où il faut agir. Mais oui. Moi, je m'enfonce peut-être, mais je pense que je serai plus en sécurité à la Viste qu'autour du métro capitaine.
Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où avant de penser prévention, ce qui est très important, la prévention, on va malheureusement devoir faire de la répression. On n'a pas d'autre solution.
Il faut les deux. De toute façon, il faut les deux. D'abord, il faut faire respecter la loi.
Pour la prévention, bien sûr.
Pour protéger la population, les soignants, les profs, les pompiers. Enfin bref, on a droit tous de vivre.
Oui, aujourd'hui, on doit s'arrêter.
Sécure. Mais actuellement, on accepte, on tolère dans le 15e arrondissement des situations que jamais on peut imaginer, par exemple.
Il y a un manque de moyens aujourd'hui. Les policiers n'ont absolument aucun moyen pour travailler.
C'est pas les moyens. Jamais. Tu vas voir dans le 8e arrondissement de Marseille sur la Corniche ce que tu vois au métro Capitaine Guest. Tu vas jamais le voir au rond-point du Prado. Je suis désolée. Il y a aussi une volonté politique. Cette situation, personne ne l'ignore. Il y a des tas de minots qui prennent de la drogue. Il y a des tas de Nigériens qui sont exploités par la mafia dont j'ai parlé la fois dernière, qui sont mis là-bas pour commettre soit des agressions, soit de la prostitution sur tout le chemin du littoral, etc. Tout le monde le sait. La police, le préfet, la municipalité. Et personne n'agit. Il y a aussi de la volonté politique. Je suis désolée.
Merci, docteur. Docteur Michou, merci d'avoir témoigné avec nous dans les GG, dans
bon
les
courage pour la suite.
Merci, docteur. Merci. Bruno non, pensez.
Mais c'est incroyable parce que, alors, comme disait Kauter, t'as des quartiers qui sont abandonnés depuis des années. Hein. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que tu t'en prennes à la personne qui te soigne.
C'est ça.
C'est-à-dire que ce médecin, il est quand même dans un quartier, il fait un choix. Mm. Parce que, il fait 50 km ou il fait 200 bornes, il va à Nice, je peux te dire qu'il va tripler ses revenus, forcément. Mm. Et là, il fait un choix d'aller soigner des gens qui sont en précarité.
Il peut soigner les parents des agresseurs.
Voilà, mais sûrement. Hier, j'ai vu un monsieur, moi j'ai vu un reportage avec ce médecin, et j'ai vu un vieux monsieur qui disait, mais qu'est-ce qu'on va devenir,
exactement.
Quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, alors que quand ils voient ça, et c'est quand même pas aux gens du quartier de faire leur propre police. Tu vois, il y a un vrai sujet aussi. Le monsieur dit, nous, on va s'en occuper. Ben non, ouais,
mais tu vas pas mettre un policier ou un vigile de sécurité privée en faction
mais
dans le cabinet,
ça,
dans
quartier,
le cabinet
en fait,
du médecin.
Des commissariats de quartier.
Pardon, je suis désolé, mais c'est une répartition des moyens. Contrairement, c'est pas une question de moyens, c'est les moyens ils sont. Parce qu'on dit toujours là, il faut les moyens,
Exactement.
C'est une question de priorité. Et ici, effectivement, il faut plus de policiers dans ce cas-là.
Aujourd'hui, t'as moins d'impunité si tu roules vite que si tu agresses.
Oui, mais excuse-moi, c'est un problème de violence globale.
Ces médecins,
il n'y a pas,
être intraitable.
Comme il a dit lui, il n'y a pas. Lui, il a la possibilité de partir, mais t'as d'autres commerçants et des habitants qui n'ont pas la possibilité et qui subissent aussi cette violence. Donc, ça règle pas le problème que lui s'en aille. Il y a un sentiment d'abandon, il y a un abandon de certaines parties de la population qui est vulnérable, qui est malade, qui est contagiée.
Attention.
Mais c'est un problème, à proximité de cette nouvelle station qui a été inaugurée il y a moins d'un an, en plus, c'est un problème de sécurité globale qu'il faut.
Après, c'est le boulot de la police. Je n'imagine pas des politiciens dire allez, là, on laisse ça comme ça parce que ça nous arrange. C'est pas possible.
C'est le boulot de la police.
Et pourtant, on s'en fout complet.
Après, il y a un problème de comportement général.
Et je pense que les policiers sont extrêmement frustrés de n'avoir pas les moyens de pouvoir intervenir.
Mais c'est pas policiers que je mets en. C'est la volonté politique, je l'ai dit clairement.
D'accord, mais.
Une répartition sur le territoire. Oui, mais alors notamment à Marseille.
Ok, mais alors il faudra accepter aussi qu'éventuellement, ça chauffe un peu. Dans ces quartiers, avec ceux qui sont les plus énervés, comme tu dis, qui veulent faire régner la loi, qui vont dans les pharmacies en croyant que tout leur est permis, si un policier.
Dans les laboratoires.
Dans les laboratoires. Il faut accepter que ça aille à la baston de temps en temps aussi.
C'est l'apocalypse.
Non, mais si tu veux, si ça va à la baston, il y en a qui seront au sol. Il y en a qui seront au sol, qui iront au tapis. Écoute, et ça aussi, il faut l'accepter.
Parce que si
c'est pour que derrière, on dise, ouais, vous avez vu, tout ça parce qu'ils réclamaient ces médicaments, t'en as 10, 12 qui viennent et que ça vienne à l'affrontement, c'est un risque aussi.
Centre de radiologie.
La société l'accepte
dire
aussi.
Hakim, hier, je t'ai dit, j'y ai passé une heure.
Quand même,
j'ai fait trois examens, j'y ai passé 1h20 et je t'ai dit en partant, j'ai dit aux 4 secrétaires médicales, mais moi, je vais vous ériger une stèle. Voilà. Parce que j'aurais fracassé tout le monde, en fait.
Donc, c'est aussi au-delà du fait d'intervenir sur les délinquants, c'est un problème de comportement général.
Mais bien sûr,
d'éducation. De société, hein. Je trouve que les gens, moi je suis désolé, parlent mal.
Mais je suis désolé,
et c'est pas forcément
sûr.
De l'agression physique. Ouais. On parle mal, et on parle mal parce que c'est indu. On va chez le médecin, je dois avoir mon ordonnance tout de suite. Je vais chez le pharmacien, je vais être servi tout de suite. Il y a quand même un problème de comportement général dans la société où on est impatient, on ne supporte pas attendre, on ne supporte pas... et donc je trouve que ça va au-delà des problèmes de délinquance de tel ou tel quartier.
Mais
parce que
raison.
Finalement, même dans des beaux quartiers, entre guillemets, les gens parlent mal aussi. Alors, il n'y a pas d'agression physique, parce qu'il y a peut-être des barrières quand même éducatives, mais quand même, il y a une manière générale. On doit tous s'interroger quand même sur la façon dont on parle mal aux gens qui sont à nos services.
Il y a un problème de courtoisie, parce que tu vois, dans plus en plus d'endroits, tu arrives et les gens disent pas bonjour. Mais quand tu dis bonjour, déjà, tu as redescendu ta tension, déjà de 2-3 niveaux, tu vois. Et moi, je vais dans plein d'endroits dans Paris, il n'y a pas qu'à Marseille, où personne te dit bonjour et ton premier mot que tu dis, c'est ouais, je veux ça. Ben non, ça marche pas comme ça.
C'est ça.
Et dans les commerces, c'est partout. Et moi, je trouve que voilà, après, c'est.
Mais même au guichet, j'imagine la SNCF.
Mais moi, les collègues,
il y a beaucoup des guichets.
Mais
en plus, comme c'est la personne que tu vois, tu vas engueuler parce que t'as un problème.
Oui.
Et comme en plus c'est un service public, elle est à ton service. Ben voilà, absolument.
Mais le médecin est à évidemment. Ton service. C'est ce que sans doute ces jeunes ou ces moins jeunes se disent.
Vous avez entendu le docteur Wichou exposer ce qui lui est arrivé du côté de Marseille. Alors on passe de ce manque d'éducation, de cette incivilité, de cette violence. Nos médecins sont-ils en danger? Les médecins et plus
les pompiers,
largement, les personnels soignants, les pharmaciens, au guichet, à la SNCF, comme le disait Bruno, 32-16 pour venir en parler avec les GG. Apportez votre témoignage surtout.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules qui continuent leur discussion avec le cas du docteur Wichou, qu'on remercie encore d'avoir été avec nous en direct, médecin des quartiers nord de Marseille, qui ferme son cabinet. Il va se mettre, il nous l'a dit lui-même, dans une structure collective beaucoup plus sécurisante pour lui.
Est-ce que je peux permettre quelque chose? Tu vois, on a parlé il y a quelques semaines, pas très loin d'ailleurs de ce secteur-là, la poste n'y va plus non plus. Les professeurs sont manquants. En fait, au-delà de la violence qu'a subie ce docteur, c'est de la violence qui est présente partout et les services publics de manière générale et l'accès aux soins est de moins en moins présent dans ces quartiers.
Et c'est de la violence pour les habitants.
Mais bien sûr, c'est de la violence pour les habitants parce qu'ils sont abandonnés tout le monde, ils n'ont plus de poste, ils n'ont plus ils n'ont plus rien en fait. Tu vois, les professeurs ne sont pas remplacés, les transports en commun, c'est au lance-pierre, tu vois, quand ils y sont encore, parce que même les chauffeurs de bus se font agresser dans ce secteur-là. Faut dire la réalité et en fait.
Et c'est un système qui s'auto-entretient. On est en train aujourd'hui de créer les délinquants
et qui n'est pas pris en charge par les politiques. Et encore une fois, Olivier, tu as raison, ce n'est pas priorisé. Et les habitants qui, en grande majorité quand même, sont des gens...
C'est des quartiers en plus où on ne vote pas beaucoup.
Justement, mais c'est parce qu'ils ne votent pas qu'on ne s'en occupe pas, tu vois. Et les gens ne votent pas parce qu'on ne s'en occupe pas. Donc c'est un cercle vicieux. Mais les gens travaillent, essayent d'aller à l'école. Enfin, tu vois...
Le clientélisme, ça n'existe pas.
Pas du tout.
À Marseille, jamais.
Surtout à Marseille, tu vois.
Ni à Paris, ni ailleurs, d'ailleurs.
Non, mais on n'a pas l'exclusivité, les gars. Ok, on est en bonne position.
Marseille, c'est plus visible.
C'est voilà.
On va en discuter avec Frédéric qui nous appelle du Var. Bonjour Frédéric.
Bonjour
Frédéric.
Voilà, donc je suis infirmier libéral. Et là, je disais donc sur le message. En gros, nous, c'est pas. Dieu merci, on n'est pas au stade du médecin qui a été agressé, mais c'est des agressions en réalité souvent verbales, des altercations un peu pas musclées du tout, parce que nous, dans notre tournée, on a la chance d'avoir pu gérer, c'est une vieille tournée, donc d'avoir des patients qu'on connaît bien et qui sont assez sympas. Ouais. Par contre, c'est pas le cas forcément des médecins qui en discutent et qui, eux, ont des gens qui sont de plus en plus insupportables. Et là, j'ai un médecin qui s'en va, qui prend sa retraite et qui a hâte de la prendre, parce que c'est justement des comportements « je veux être pris tout de suite ». Alors, le portable est en cause, parce que maintenant, on a l'impression qu'on veut tout de suite, comme sur Internet, c'est de la consommation médicale. Et puis, je disais aussi, le problème, c'est la gratuité. C'est gratuité en apparence, c'est-à-dire que comme on ne paye plus, on a l'impression qu'il n'y a pas de coût, quoi, que c'est on est à disposition, voilà. Un peu comme je disais dans les bus, un bus qui est gratuit, au bout d'un moment, on ne fait plus attention au siège, on peut s'amuser dessus, on peut taguer, là, c'est pareil. Et les pharmaciens ont le même comportement, les laboratoires, c'est sans arrêt, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est sans arrêt, pourquoi ci et pourquoi ça, c'est tout le temps. Nous, c'est pourquoi vous ne pouvez pas venir tel jour, pourquoi vous pouvez venir à telle heure, pourquoi ceci, c'est permanent. Donc,
vous-même, Vous n'avez pas été menacé physiquement, vous avez dû en venir aux mains quand même avec des clients des patients.
Il fallait mettre 92 parce que bon, généralement c'est altercation verbale, mais bon ça s'arrête là et puis bon, peut-être que voilà, c'est pas le truc que je crains le plus.
L'altercation verbale, c'est pour les raisons premières, c'est vous êtes pas là assez vite ou parce que non, pas, on est un infirmier ou un médecin, on est plutôt en situation de demandeur.
C'est où on va pas assez vite, où on peut pas prendre en charge, ou alors fallait pas faire ci, fallait pas faire ça, ou alors je comprends pas pourquoi. Ça c'est pas pris en charge, ou quand on leur dit par exemple qu'il y a des injections qui malheureusement la Sécu ne veut pas les rembourser, voilà, on leur dit moi je fais pas les règles, moi j'applique ce qu'on me dit, quoi. Voilà. Et même des fois pour 1,50€, ça va partir à bon, et comme ça se fait.
Frédéric, ce mauvais comportement, est-ce que au travers de ce que vous voyez, il touche toutes les catégories sociales ou pas?
Malheureusement, oui. Alors bien sûr, il y a des catégories plus ou moins tendues, on va dire, mais c'est l'ensemble. On peut pas dire s'il y a pas, voilà, il y a des gens, on va dire, il y a des gens qui ont les termes employés vont pas être les mêmes, mais à la limite ça va presque être plus sournois d'une personne un peu de classe un peu plus élevée qui va pas forcément, bon, il y aura pas de terme injurieux, mais par contre voilà, ça sera
incisif.
La gifle sera pareil, quoi. C'est pas uniquement
dans, quand on dit, comme on dit, dans les quartiers difficiles avec une population immigrée ou quoi que ce soit, quoi.
Les agressions verbales, c'est partout maintenant.
C'est partout, justement. C'est à la pharmacie, c'est parce que la pharmacienne n'a pas reçu le produit à temps.
Les gens sont impatients.
J'ai payé une analyse.
C'est peut-être ce qui est gratuit qui est dû.
Là, pour l'analyse, par exemple, le monsieur.
Allez-y, Frédéric.
Là, par exemple, pour l'analyse, j'entendais tout à l'heure, là, le monsieur qui n'a pas d'ordo. Bon, ben, il faut savoir qu'un laboratoire d'analyse, on peut faire une analyse sans ordo, mais dans ces cas-là, on paye.
C'est exactement ça.
Merci, Frédéric, de ce témoignage. Bonne journée du côté du bar. Merci, Frédéric.
Non, mais t'as un sujet, c'est que de plus en plus en contact avec des plateformes, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, dès que tu te retrouves face à quelqu'un, toute ta colère sort, et peu importe, tous les métiers, de face à face avec de la clientèle, de la patientèle.
On l'a tous fait.
Ça se parle, oui.
On a tous engueulé une personne. Moi, il m'arrivait d'engueuler une personne dans un comptoir d'Air France et de m'excuser 5 minutes après en lui disant, c'est pas vous que j'insulte, bien sûr, c'est l'entité que vous représentez. Mais on l'a tous fait. On a tous mis nos problèmes sur une personne physique.
Mais c'est pas ça.
Bruno, il a raison. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins en contact avec de vraies personnes, entre guillemets, puisque la banque, c'est ça, on est que sur des trucs informatiques, virtuels. Des applications. Donc c'est vrai que le jour où tu te retrouves enfin t'as trouvé quelqu'un qui parlait, parfois effectivement tu...
C'est vrai que tu te décharges.
C'est violent quand même. C'est ça qui rend la société violente aussi.
Mais il ne s'agit pas de ça, Mourad. Oui, tous on a, voilà, à la SNCF ou ailleurs, insulté pour un retard ou quoi. Non, mais tu t'excuses et tu dis à la personne, c'est pas contre vous.
Ça arrive jamais, les retards.
C'est sur le fonctionnement.
Mais là, il s'agit pas les trains, donc je suis pas en retard.
Il s'agit pas de ça. C'est limite une violence et une agressivité qui est presque systémique, en fait, que tu retrouves partout, que tu retrouves à l'école, chez les parents d'élèves, que tu retrouves chez certains enseignants, que tu retrouves dans le corps médical, mais alors là, d'une manière exponentielle et de plus en plus importante. Et c'est grave, tu vois, en fait, parce que au-delà de ça, au-delà des médecins, dans une salle d'attente, les personnes, elles sont malades en général. Tu vois, quand elles viennent, elles sont fatiguées, elles sont épuisées, elles ont un souci de santé, des fois elles ont des cancers, elles viennent rendre... Tu vois, c'est émotionnellement et physiquement hyper éprouvant, et c'est violent pour tout le monde, en fait.
C'est des choses auxquelles les gens, le médecin, ou alors je vais défendre la SNCF parce que je prends le train demain, les gens ne sont pas préparés. Il m'est arrivé de voir des contrôleurs, malheureusement, des contrôleurs avec des gens qui n'ont pas de billets et qui, grosso modo, disent j'ai pas de billets et je t'emmerde. Ouais. Voilà. Et le mec, il n'est pas formé, il n'est pas préparé à gérer ce genre de situation. Non, c'est compliqué.
Normalement, il est formé.
Mais quand le mec, il dit d'agressivité particulière.
Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Moi, mes collègues, ils sont formés à garder leur sang-froid et essayer. Et puis, à un moment donné, si la personne devient trop agressive, tu es obligé d'appeler nos brigades de surveillance générale.
Qui sont dans le train?
Non, pas forcément, qui sont dans la gare d'après, donc, ou d'avoir été obligé d'arrêter le train après dans une gare.
Ça m'arrive. Tu perds une heure pour deux énergies.
C'est un sujet de discipline collective, de discipline individuelle, mais c'est vraiment... Et moi, mes collègues, aujourd'hui, sont de plus en plus confrontés à ça. Et comme il y a de moins en moins de personnel dans les trains, on en a parlé l'autre fois, à un moment donné, les gens, quand ils en trouvent un, mais même les gens qui font le ménage, qui sont des boîtes privées, ils se font engueuler aussi. Ouais. Enfin, c'est horrible. Aujourd'hui, de toute façon, de plus en plus de mes collègues, moi, à 30-35 ans, ne veulent plus travailler en face à face avec le public. Donc après, ils cherchent des boulots où ils peuvent travailler seuls dans un coin. Parce que ça devient de plus en plus violent et beaucoup de métiers sont comme ça.
On va en parler avec Michel.
Ceux qui bossent à Pôle emploi. L'agressivité qu'ils doivent recevoir
parce avec pardon,
à la Sécu, à la CAF. D'ailleurs, la CAF ne reçoit plus le.
On a eu, l'exemple du docteur Wichou. On a eu l'exemple de notre camarade, l'infirmier du côté de Fréjus aussi. Michael, qui est à Lyon. Bonjour, Michael.
Bonjour. Bonjour, les grandes gueules.
Vous êtes dans une boutique, quoi? Une boutique de téléphonie, c'est ça?
Exactement, oui. Je suis responsable d'une boutique à Lyon. Auparavant, je travaillais à Marseille, donc je salue Kauter aussi de Marseille. Merci. Ça fait plaisir.
Merci,
et Michael. Boudjelal aussi, qui m'a fait rêver avec le triplé à l'époque où j'étais à Toulon. Donc voilà, ça fait plaisir de passer avec vous.
Il nous a fait rêver. Ah. Moins maintenant, quand même.
Ben, un peu moins maintenant, mais après, on reste supporters. Mais ça nous a fait plaisir, tout ce passage de toutes ces années que monsieur
Boudjelal. Ça va bien se passer cette année, vous verrez.
Merci.
Sinon,
alors, Michael, vous êtes pas là pour cirer les pompes de Mourad.
Bah, dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu qui est subtil, et tout, vous êtes.
Alors, mais racontez-nous alors justement, parce que vous voulez témoigner en tant que gestionnaire de boutique. Alors, allez-y.
Effectivement, bah moi en fait, j'ai vraiment senti une montée de ces incivilités. Bah en fait, quand on est ressorti du Covid et qu'en fait on a un petit peu libéré tout le monde, c'est vrai que après nous on a mis en place des rendez-vous et c'est vrai que quand on peut pas prendre les gens, alors Dieu sait qu'on fait tout dans notre société pour vraiment satisfaire le client, mais aujourd'hui on voit que pour un client en panne, ça peut vite monter. Aujourd'hui, on est même formé à la gestion des situations difficiles, justement pour garder une posture vraiment pour faire descendre la tension. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un téléphone, une panne de box, on voit des comportements que peut-être on ne voyait pas il y a 5-6 ans. Et moi, j'ai vraiment, on a vraiment constaté
et
ça.
Toutes les catégories de population.
Ah oui, franchement, là, moi, on peut toucher que ce soit des professionnels particuliers, peu importe le niveau social. Je vois vraiment, alors, c'est pas tous les jours. Bon, moi, je travaille vraiment sur un côté au Lyon, à côté de la gare de la Part-Dieu. Donc, c'est vrai qu'on est une boutique où il n'y a pas que des Lyonnais, boutique de passage. Mais c'est vrai que parfois, on voit des comportements pour des choses bénignes. Après, nous, on peut comprendre des clients en panne, on fait tout pour les dépanner. Mais des fois,
Mais Michael,
ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, et paradoxalement, c'est quand on est sympa et gentil, des fois, on a l'impression qu'on va passer après. Donc on s'énerve aussi. Moi, il m'est arrivé.
Non, c'est surtout qu'on a l'impression que c'est de la faiblesse.
Ouais, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'avoir un problème avec un établissement et je leur ai dit, bon, je suis gentil, je suis sympa et tout. Il a fallu que je m'énerve. Et quand je me suis énervé, paradoxalement, tout a avancé. Et tant que j'étais gentil, ça n'avançait pas. Parce qu'on s'est mis, on priorise aujourd'hui les gens qui ont ce genre d'attitude. Alors qu'on devrait faire l'inverse.
Parce que les pouvoirs politiques ont aussi cédé d'une manière générale devant la casse.
C'est vrai.
Aussi, si tu veux. Lors de grandes manifestations. Écoutez, oui, d'accord.
Vrai,
vous voulez quoi? Vous voulez des chèques? Vous avez ça cassé, c'est pas grave, etc. On a brûlé. Mais si, Bruno.
Mais si, Bruno. Bien sûr que si.
Réellement, moi, j'ai pas souvenir que les manifs les plus violentes, les dernières manifs violentes, et qui étaient les Gilets jaunes, qui ont été très réprimées. Ils ont obtenu des dizaines de milliards d'euros. Moi, j'ai pas vu. Hein,
La carbone a été annulée.
Non, mais par contre, sur les manifestations, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler longtemps.
On laisse tomber les gilets jaunes. Les bonnets rouges.
Oui.
On a fait tomber des portiques où c'était des élus. Oui. Des élus bretons. Le gouvernement s'est couché.
On est d'accord.
Exactement. 800 millions, 1 milliard d'euros. Quand tu te couches devant des élus qui eux-mêmes font tomber des installations, il faut pas s'étonner qu'après, au bas de l'échelle, tu fasses la même chose.
On est bien d'accord. C'est pas des manifestations populaires, c'est des manifestations de patrons et d'élus.
C'était populaire,
Les
patrons, les élus, c'est pas
du peuple. Il y a 20 ans, je travaillais dans un centre social, au Néréi, dans un quartier Est, mais abandonné. Un centre social qui était merveilleux, qui fonctionnait avec les habitants. Une bande de jeunes qui était avec un éducateur, tu vois, qui avait pris l'habitude de se servir dans les caisses. Et quand on est arrivé, on a arrêté, le non-limite. Ils ont pété le centre social. Ils ont explosé. Et pour la paix sociale, j'ai découvert à ce moment-là cette expression, pour avoir la paix sociale en plein été, ils ont été récompensés, on les envoyait en camp. Et à ce jour, j'étais étudiante, j'avais 19 ans, j'en ai 45. À ce jour, les habitants n'ont toujours pas de centre social. Donc, on a récompensé ceux qui ont cassé,
pour les calmer.
Ouais. Et tout le reste de la population, donc deux cités, n'ont plus accès aux services publics qui étaient présents, donc la CAF, la Sécu, etc., à la crèche. Il n'y a plus rien. Exactement. Donc c'est pas vrai, c'est un comportement de manière générale.
On va nous monter une commission et après ils décideront qu'il faut nommer un ministre de l'attitude citoyenne. Voilà. ça va régler le problème.
À Mickaël d'avoir témoigné, d'avoir été avec
Marlène Schiappa
en direct.
Oui, Marlène Schiappa qui sera dit oui, qui pourrait. Oui,
donc on a posé la question insécurité. Est-ce que voilà les médecins ou
Bruno Le Maire,
les médecins sont en danger
comme ça.
C'est quand même un oui massif à plus de 88% pour ceux qui ont écouté la discussion des GG.
On n'a pas eu d'agresseur au téléphone.
On n'a pas eu d'agresseur, mais on n'a pas parlé des urgences où maintenant il y a des agents de sécurité dans les urgences à Marseille en tout cas, parce que pareil, en fait, tu fais agresser partout.
Le plus gros scandale des urgences, c'est que tu peux rester 24 heures avant d'être pris en charge.
Oui, mais c'est pas la faute, c'est pas la faute de ceux qui bossent.
Mais pour rejoindre ce que disait Mourad, quand t'arrives aux urgences avec ton môme qui a de la fièvre, si tu gueules pas, souvent on t'oublie. Et c'est malheureusement celui qui va gueuler le plus fort, à un moment donné, il arrivera
peut-être
à
avoir un
médecin, une infirmière ou faire plus peur.
Non, t'as débarrassé en fait, tu veux t'en débarrasser.
Vous savez qu'à 11h. On est dans le rapport de force de partout aujourd'hui.
Exactement.
À 11h, à vous de choisir à 11h de quel sujet voulez-vous que nous parlions ensemble au 32-16. On vous a soumis deux sujets de discussion tout à l'heure. Le tsar Poutine, le chef du Kremlin, va faire une grande cérémonie d'annexion des territoires ukrainiens. Il va prendre la parole et dénoncer ce qu'il appelle la fin de l'hégémonie de l'Occident. Il va encore défier l'Occident, Vladimir Poutine.
C'est pas le monde en ce moment, on se régale.
Où est-ce que vous voulez que nous parlions des dégonfleurs de pneus SUV? Ouais, vous savez, ce sont les écologistes les radicaux. Alors, Bruno Pomar,
il a dégonflé les pneus. Il a crevé les pneus en Russie.
Attention. De quel sujet voulez-vous que nous parlions? C'est sur rmc.fr que ça se passe. En attendant, dans un instant, les indiscrets GG avec les ambitions parlementaires de Yannick Jadot. Oui, les écologistes bougent encore. Et puis on aura le quiz des GG.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et Bruno Poncet qui est cheminot. Nous sommes avec Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, toujours président du Hier Football Club.
Affirmatif.
Parce que tu parles moins du parcours.
C'est vous, dis-moi, on va être discret.
Ça progresse quand même un peu.
Oui,
ben, le début de saison, ça va.
Et pas très bon.
C'est en reconversion comme Barbara Lefebvre. C'est indexé sur la reconversion de Barbara Lefebvre.
Ouais, ça sera plus rapide que la reconversion de Barbara.
Elle va
m'engueuler.
On y va pour les indiscrets.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
C'est le rendez-vous du service politique d'RMC avec ce matin Hélène Terzian. Bonjour Hélène.
Bonjour les grandes gueules.
On va s'intéresser à Yannick Jadot qui est invité d'Apolline de Malherbe ce matin sur RMC et BFM TV, député européen Europe Écologie Les Verts, qu'on a vu aussi hier dans les manifestations auprès des syndicats. Et alors maintenant, il commence à avoir des ambitions parlementaires, mais non plus à Bruxelles, en France.
En France. Et si Yannick Jadot était sénateur, oui, il s'y intéresse, nous confirme un de ses proches. Je ne pensais pas que ça vous ferait rire. Ce serait mentir de dire qu'il n'y pense pas, nous dit un autre. Clairement, c'est une piste qui est sur la table, hein, comme on dit souvent. Yannick Jadot, aujourd'hui, il est député européen, mais son mandat prend fin en 2024, son troisième mandat. Problème, chez Europe Écologie Les Verts, il y a une règle interne qui veut qu'on ne se représente pas une quatrième fois à un mandat. Une dérogation n'est pas impossible, on nous l'a dit, d'autant qu'il se sent très à l'aise dans son siège à Strasbourg. Oh oui, mais il a mûri sur une idée, nous dit un de ses fidèles. Il a envie de s'exprimer dans le débat public français, de continuer à porter une parole au niveau national. Entendez un peu plus. Alors pourquoi pas depuis un fauteuil au Sénat?
Bon, d'accord, pour l'ambition. Après, il faut trouver la circonscription.
Alors, où, à votre avis, en tout cas Il y songe sérieusement. Dans son cercle proche, on commence déjà à lorgner sur certaines circonscriptions gagnables.
À Paris.
Beaucoup parlent exactement d'un siège à Paris, puisque les écologistes pourraient en décrocher 3 dans la capitale. Ouais. Ce qu'un de ses fidèles nous dit quand même, c'est qu'il a fait sa campagne présidentielle sur le thème des territoires. Alors, ce n'est pas franchement pour s'enfermer à Paris. Il ne lui conseille pas de briguer une circonscription parisienne.
Du coup, ces ambitions, comment sont-elles perçues par les autres sénateurs?
Du côté du groupe écologiste, ils sont 12, on ne voit pas cela d'un mauvais œil. En tout cas, un sénateur écolo me disait que l'idée était loin d'être idiote. De là à déjà l'imaginer, déjà chef de groupe, on n'y est pas encore. Mais sans doute, ça lui donnerait de la visibilité à lui et puis aussi au groupe écologiste. Un coup de projecteur que d'autres à gauche accueillent plutôt bien, puisqu'un sénateur socialiste reconnaît qu'avoir au Sénat ce genre de personnalité qui pèse quand même sur le plan politique national, c'est tant mieux. Encore faut-il qu'il décide d'être officiellement candidat. En tout cas, on nous a dit que s'il se présente, c'est pour être utile et c'est pour être élu. Voilà.
Monsieur Poncet,
Non mais c'est fou, Jadot, on l'a pas entendu depuis 6 mois alors qu'il y avait quand même des sujets, hein, surtout sur l'écologie. Là, il sent que Sandrine Rousseau est en train de monter et qu'elle a pris vraiment beaucoup de place et que son dauphin Bayou, il vient de se faire éjecter, donc il vient. Voilà, et puis c'est un apparatchik de haut niveau, c'est-à-dire qu'il avait déjà 3 mandats, il va en faire un 4e, un 5e, parce que les mecs ils pensent qu'à ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sa vie lui, c'est pas d'aider les Français, c'est d'être élu. Comme ça, t'es tranquille, t'es au chaud. Non, mais faut arrêter avec ces gens-là.
C'est un peu caricatural.
C'est pas vrai. Non,
c'est caricatural.
C'est pas vrai. Il se replace. Il faut savoir quand même que les sénateurs sont élus par les grands électeurs, donc par les élus, donc ils se mettent pas en danger. Et pour moi, ça, c'est des petits arrangements entre amis. Excuse-moi, mais quand tu dis, il va être plus... Qui entend les sénateurs aujourd'hui, en fait? Ils se voient entre eux...
Supprimer le Sénat.
Personne ne les entend aujourd'hui. Une majorité à droite, un Bruno Retailleau a fait sa place.
Mais dans le public, en fait, le grand public a des années-lumière du Sénat, tu vois, ce qu'il regarde.
Mais justement, l'intérêt, c'est aussi de mettre.
Mais pas du tout. L'intérêt, c'est de se replacer et d'avoir 10 000 balles par mois en dehors.
Oh, mais c'est démago.
Mais non, c'est pas démago, regarde.
Si c'est un discours anti-parlementariste.
Mais pas du tout. Mais qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Il a fait 3 mandats. Excuse-moi. Il a fait 3 mandats. Il part d'une dérogation. Pourquoi il aurait une dérogation?
Il doit arrêter la politique.
Pourquoi pas?
Il
retourne à la société civile.
Je trouve que la règle des écolos est pas mal. Bien. Effectivement, au bout de 3 mandats, t'arrêtes. Oui.
Mais ça va bientôt changer.
Donc,
la règle.
Il doit s'arrêter. Donc il doit
La règle des deux mandats devrait s'appliquer à tout le monde. Devrait s'appliquer au maire, aux députés, aux sénateurs. La règle des deux mandats doit s'appliquer à tout le monde. Il y en a marre d'avoir des politiques en jachère. C'est pas possible.
Mais nous, c'est comme ça qu'on vit chez nous.
Empêcher de pouvoir continuer à faire de la politique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en dictature. En fait, ça veut dire que
ça veut dire qu'on a remplacé la monarchie par l'anarchie.
Excuse-moi,
pas l'anarchie.
3 mandats de 6 ans, ça fait déjà 18 ans.
Oui.
Excuse-moi, tu fais une dérogation, tu rajoutes. À quel moment tu vas travailler dans la société civile normalement?
En fait, c'est un militant au départ.
Ben oui, mais le monde réel, c'est intéressant aussi.
Il n'a pas de métier.
On a dénoncé ici Agnès Buzyn, un tel, tu vois, les reclassements d'amis.
Elle avait un métier.
Oui, elle était médecin.
C'est quelque part le reclassement aussi d'un copain. Il faut que ces gens arrêtent de croire que la politique, c'est un métier, qu'un mandat, c'est un métier. Un mandat, c'est tu représentes la population française à telle institution ou collectivité pendant un temps donné. Ce sont des CDD et non des CDI.
Deux CDD, c'est bien.
Exactement. Voilà. Ça te donne droit à une retraite confortable, etc., etc. Donc, à un moment donné, la représentativité du peuple français, c'est pas 10 mecs, 10 mandats pour toute leur vie, tu vois, ou 10 nanas, c'est pareil.
Pas un CDI.
Exactement. Il faut laisser les gens se représenter, il faut laisser la démocratie respirer et arrêter d'étouffer. C'est toujours les mêmes, excusez-moi, toujours les mêmes gueules, toujours le même immobilisme, quoi. Tu vois ce que tu veux dire? Laisser les autres se présenter, laisser les jeunes exister
sur le dos de la République.
Exactement.
La politique ne peut pas accueillir tous les ratés de la société civile.
Merci.
C'est pas possible. Voilà.
Non, c'est trop violent.
Mais si.
Par contre, le Sénat, ils en veulent pas. Il est beaucoup trop jeune pour le Sénat.
Non, on a un sénateur plus jeune, à Marseille.
Le Sénat a rajeuni, oui.
Bien. Écoutez, l'hiver arrive. Plus besoin de col roulé ni de parka pour Yannick Jadot. Là, je pense qu'il a pris ce qu'il fallait. Il a eu plusieurs couches. Le Sénat aussi.
C'est pas lui en particulier. Il a pris pour
l'ensemble de l'œuvre des politiques. Attention à ce discours anti-parlementariste un peu.
Mais non, c'est pas anti-parlementaire.
Dans les régimes, il n'y a pas de parlementaire.
On ne dit pas qu'il ne faut pas de parlementaire.
Il n'y a pas de démocratie.
On dit qu'il ne faut pas toujours les mêmes parlementaires.
C'est différent.
Le Sénat utile, on l'a vu pendant le premier quinquennat Macron, où il ne se passait pas grand-chose à l'Assemblée nationale, où tout le monde était au garde à vous. Le Sénat, qui a plus de temps, qui fait des bons rapports, qui a des bonnes commissions d'enquête,
qui n'a pas de pouvoir.
C'est bien le contre-pouvoir.
Je n'ai pas dit que le Sénat était inutile. J'ai dit qu'à un moment donné, toujours les mêmes gars dans toutes les institutions, nous sommes fatigués et c'est aussi responsable de la
France. Le Sénat, jusqu'à présent, c'est la chambre de retraite des députés. Ça doit avoir une autre.
Là, les ordres de la République, c'est là-bas, moi je te le dis. Je les ai rencontrés, moi, les sénateurs.
On a même fait une émission de grande gueule.
Vous les rencontrez dans un sens différent. Moi, je les ai rencontrés.
On a fait une émission sur place, on a vu comment ils travaillaient.
Qu'ils fassent une loi, tu vois, ou qu'ils se battent contre une loi, et quand tu parles avec eux, t'es avec des gens déconnectés. C'est-à-dire que, oui, alors là, on va discuter, on verra ça dans 3 mois, et puis après dans 3 ans. Non, sois sérieux. Et moi, vraiment, le Sénat, j'entends que le Sénat, c'est un contre-pouvoir quand l'Assemblée nationale a une majorité.
Regarde sur l'affaire Benalla.
C'est contre-pouvoir, ils s'entendent tous. Aujourd'hui, les Républicains, ils s'entendent. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y aura un contre-pouvoir si le Sénat, il était à l'extrême gauche. Ou je sais pas quoi, tu vois. Il n'y a pas de
contre-pouvoir. Ah oui, d'accord.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves qu'à la fin, ils se font des bisous et tout va bien. C'est bon.
Jean-Luc Mélenchon a été sénateur.
Jean-Luc Mélenchon, c'est des apparatchiks. Mélenchon,
le
Sénat,
Bardella, tous là, ces apparatifs.
Le Sénat, le pouvoir de ne pas voter une loi, mais à quoi ça sert, puisqu'elle passera si elle est votée en seconde lecture à l'Assemblée.
C'est fini. Merci, Mme Terzian.
Chambre de retraite des députés.
Hélène, on y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
On retrouve Louis Gerbier.
Rebonjour.
Belle chemise, Louis. Tiens. Non, c'est vrai, c'est mieux qu'un col roulé noir.
Alors, on y va, Louis.
C'est pas faux.
Allez, le quiz.
Alors, quelle cause de mortalité est en hausse chez les chiens et les chats depuis quelques années? Je vous donne un indice sonore.
Empoisonnement.
La ganja.
Le reggae.
Bonne réponse. Le reggae.
Merci, un chien.
Le
reggae,
reggae
tue. Meurt.
Le reggae tue. Le cannabis, en tout cas en Amérique du Nord, où 16 chiens et chats sont morts d'overdose en 2021. Selon l'étude de l'Ontario Veterinary College, avec cet accent incroyable, la consommation fortuite de space cake ou de têtes séchées serait responsable de cette augmentation. En fait, les gens fument chez eux.
Et les boulettes qui tombent.
Le chien, il passe, il attrape et.
Non, mais une boulette qui tombe par terre, ton chien, il la ramasse, il la mange. Même moi, ça, j'ai déjà vu faire. Donc.
C'est du vécu.
Anecdote.
Ça m'est déjà arrivé chez des amis ou t'as.
Ouais, bien sûr, chez des amis, oui.
Ouais, j'ai pas de chien, t'as tous les chiens, ils arrivent, ils remontent, et puis c'est comme c'est pas des chiens policiers, le chien il a bouffé la boulette. Donc après tu t'inquiètes un peu pour le chien, effectivement.
Je t'inquiète un peu pour les enfants, parce que là c'est un chien qui a pris, ça peut être un minou qui passe par là et qui.
On continue.
Quelle marque de vêtements vient d'être liquidée?
Camailleux.
Camailleux.
Ouais.
2700
à Lille, c'est terrible. 2700 familles.
2700 salariés, malheureusement, sur la paille. C'est très triste. Alors que pour Camailleux, en fait, fallait juste virer les stylistes.
Ouais, non, mais surtout, fallait surtout virer le patron. Ils ont mis des patrons, c'était des financiers, au lieu de mettre des gens du métier, et ils ont fait n'importe quoi dans les collections.
En fait, c'est une marque qui avait vieilli, qui n'a pas réussi à se renouveler.
C'est que le tribunal a.
Il n'y a plus que Bruno qui.
Attention.
Le tribunal a dit que c'était à cause des dirigeants, tu vois. Donc, il y a une décision de justice qui dit que c'est à cause des nouveaux dirigeants qui ont acheté il y a 2 ans. Je m'y suis intéressée parce qu'il y a quand même 2700 familles sur le carreau.
Bien sûr.
Et c'est les salariés qui sont pénalisé, et même si tu fais appel, la décision est applicable tout de suite. Donc dans le mois, ils vont tous être virés sans possibilité de reconversion. C'est quand même.
On leur a demandé de venir bosser 3 jours de plus.
Ouais. On continue.
Quel acteur a confondu le livre d'or du mémorial d'Auschwitz avec une séance de dédicace?
Quel acteur?
Ouais, acteur américain.
Oh, jeune, vieux.
Petit indice sonore.
I'll be back.
Ouais, Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger, alors le son que vous avez entendu évidemment mythique dans Je reviendrai dans Terminator, bah c'est exactement ce qu'il a écrit à la fin de dans
le livre d'or.
Il a écrit I'll be back. Alors voilà, vous en pensez quoi?
Le gouverneur de la Californie quand même, ça veut dire que les Américains, ils ont quand même choisi des mecs qui sont quand même de haut niveau.
C'est mal passé comme message sur.
Imagine, un peu mauvais goût. Ouais, c'est pas très bon.
On continue, Louis.
Alors ça, c'est pour Kauter. Quelle série télé a tourné hier son dernier épisode?
Belle la vie.
Belle la vie.
Mythique.
J'ai jamais
la seule série télé où t'as pas un Marseillais, quoi. C'est merveilleux.
Il n'y a pas un acteur marseillais.
C'est vrai. Marseillais.
Mais non.
Mais si.
Drôle.
Il y a que des Parisiens. Celui qui a l'accent du sud, il vient du sud-ouest. Celui qui a l'accent, voilà. Mais il n'y a pas un Marseillais dans cette série. Je suis. Et d'ailleurs, les plus grands fans sont des Parisiens. C'est.
Je n'ai jamais. Alors, qui a déjà vu
Qui a déjà regardé?
Qui a déjà vu un épisode de?
Moi, j'ai vu un épisode pour regarder, mais je suis pas fan. Et j'ai. Mais.
C'est un cartoon. Ça a duré combien de temps?
18 ans, je crois.
Oui, non, toi, tu regardais.
Moi, je suis fan. J'ai vu les 14 avec 23, non, j'ai jamais regardé ça. Pas du tout.
Mais en fait,
jamais regardé.
Je disais sur ce que disait Kauter, à part Patrick Bosso, est-ce que vous connaissez d'autres acteurs marseillais?
Cadmerad, il vient de Marseille, je crois, non?
Non, il n'est pas de Marseille.
Fernandel, c'est une colle.
Fernandel. Donc il y a eu Fernandel, Patrick Bosso, Kauter et qui d'autre?
Ouais, mais pas il y a.
Mais parce qu'on ne nous laisse pas la parole, parce qu'on est étouffé par les Parisiens, y compris chez nous.
Vous parlez trop,
c'est le propre d'un film quand même, tu vois. On n'est plus dans le muet, Charlie Chaplin.
Dimitri Payet dans son rôle de la bouteille d'eau, je me souviens.
Merci. Allez, le dernier.
Allez,
petit
allez, c'est une candidature. Je veux faire un film.
Non, mais juste, on finit là-dessus, mais juste 2-3 chiffres. 4600, plus de 4600 épisodes. C'est un succès. 6 millions de téléspectateurs.
Moi, je suis toujours
en 2008,
pas compris pourquoi ils arrêtaient. C'est un truc très.
Là, c'est parce que c'est quand même.
J'ai pas compris pourquoi ils avaient
commencé. C'est plus belle la fin, là.
C'est
plus belle la fin.
On commence à avoir fait le tour des histoires.
Allez, merci Louis.
Merci à vous et bon week-end.
Les dégonfleurs de pneus de SUV ou Vladimir Poutine, plus que jamais tsar de Russie qui va encore défier l'Occident et les Occidentaux tout à l'heure, les États-Unis et l'Europe dans un discours. De quoi voulez-vous que nous parlions ? À vous de choisir. Vous avez encore 4 minutes. Allez, je vous donne 4 minutes. 5. Allez, 5. 5 minutes sur internet rmc.fr pour décider du sujet que l'on évoquera dans un instant.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.